Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques, Denis Knopfler.
Mesdames et messieurs, que l'on accepte ou non l'idée de faire désormais commencer la phase dite hellénistique de l'histoire d'Athènes en 335 et non plus dès 338 ou seulement en 323, il me semble qu'on pourra difficilement contester à l'avenir l'importance du tournant marqué par la récupération du territoire d'Oropos. Et cela grâce à Alexandre, vous vous en souvenez, mais au terme d'une négociation qui, à l'automne 335, précisément, mit aux prises l'orateur Démade, seul interlocuteur ou à peu près possible du côté athénien, avec le jeune roi de Macédoine, vainqueur justement des Thébains. Les deux parties en présence ayant alors un intérêt majeur à se réconcilier. Au nombre des effets immédiats de ce retournement de situation, il faut désormais ranger, à mon avis, la plus significative des mesures politiques prises par les Athéniens au cours des 12 années, la dodécaïtia, correspondant à la période de Lycurgue et de Démade, associons-les, à savoir la réforme de l'éphébie, par quoi l'on entend la mise sur pied d'un nouveau cadre de formation pour les jeunes gens ayant atteint l'âge de 18 ans, les éphèbes, au sens le plus technique, bien sûr, du terme, qui désigne l'adolescent parvenu au seuil de l'âge adulte. Jeunes gens appelés à accomplir un service militaire, éphébeia, qui devait durer 2 années pleines, à cette époque en tout cas. Institution des plus célèbres, et pour 2 raisons au moins. D'abord parce qu'elle fit d'emblée l'objet d'une présentation minutieuse de la part d'Aristote, ou disons de son élève peut-être, dans la Constitution des Athéniens, vers 325, qui lui consacre tout un chapitre, le chapitre 42, vous l'avez sous les yeux, même si je ne vais pas le commenter dans le détail. Mais c'est un texte célèbre, accessible aussi aujourd'hui en livre de poche, avec une traduction nouvelle de M. Michel Sève. Donc un ouvrage retrouvé, vous le savez, il y a un peu plus d'un siècle, dans les sables de l'Égypte. Et la célébrité de l'institution tient aussi au fait que l'éphébie attique, quoique soumise elle-même, on le verra, à des avatars postérieurs, a manifestement servi de modèle, on peut le dire, de façon directe ou indirecte, au système éducatif adopté dans pratiquement toutes les cités hellénistiques, qui étaient désireuses, elles aussi, de préparer plus efficacement les jeunes gens à leurs tâches, à la fois militaires et civiques. C'est ce qu'a montré, il y a déjà un certain temps, l'historien franco-polonais André Chankowski, dans un article qui venait compléter sur ce point une monographie qui reste la base sur l'éphébie, dû au savant grec francophone Chrysis Pellekidis, Histoire de l'éphébie attique de 1962. Cette réforme, depuis assez longtemps déjà, certes, on s'accordait à la dater des alentours de 335, mais les historiens les plus autorisés avaient, ou ont encore peut-être, une préférence marquée pour l'année attique 336-335, l'année attique allant de juillet, en gros, à juillet. Ainsi, Mogens Hansen, l'auteur bien connu de, par exemple, de la démocratie athénienne à l'époque de Démosthène, Habicht lui-même dans Athènes hellénistique, avec une quasi-certitude, so gut wie sicher, pratiquement assuré, écrit Habicht. Or, il est clair que si cette datation traditionnelle s'avérait être la seule possible, il ne pourrait pas être question de mettre la chose en rapport avec la mainmise sur l'Europie à l'automne 335, dans une année attique déjà postérieure. Ce serait même, au pire, un argument contre la datation que je m'applique à défendre pour cet événement. De fait, c'est en relation avec un tout autre événement majeur, lui aussi, que on mettait traditionnellement en relation la réforme de l'Euphébie, et cela depuis que un illustre philologue allemand, dans un livre déjà plus que centenaire, Aristoteles und Athènes, le philologue Ulrich von Wilamowitz, mettait la réforme de l'Euphébie en forme de réaction à l'assassinat de Philippe de Macédoine à l'automne 336. Il est vrai que cette réforme n'est pas exactement datée dans nos sources. Elle est simplement attribuée chez le lexicographe Harpocration, qui est bien informé, assez tardif, bien informé le plus souvent, qui met la réforme, ou qui plutôt l'attribue, à un certain Épicratès, certainement un homme politique important, mais dont, pour le moment, si le nom a été bien transmis, on ne sait rien d'autre. Alors, qu'en est-il des fondements de la datation traditionnelle? Elle repose, en fait, sur une série de consécrations émanant des éphèbes eux-mêmes au terme de leur temps de service, donc les 2 ans que durait l'Euphébie. Or, les plus anciens de ces documents sont datés fort précisément de l'année de l'archonte Ctésiclès. C'est l'éponyme, comme on dit, de ce qui correspond pour nous à l'été 334, été 333. C'est également, comme on le voit dans ce texte dont j'ai donné seulement la traduction, qui est assez célèbre, une série de décrets qui émanent d'une des 10 tribus d'Athènes, en l'occurrence la Cécropide. On a toute une série de décrets qui honorent les éphèbes et aussi leur maître au gymnase sous l'archonte Ctésiclès. Et ce sont à coup sûr les premiers éphèbes issus de la réforme. Sur ce point, tout le monde est absolument d'accord. Le problème vient de ce que, selon les tenants de la datation traditionnelle, l'année 334-3, qui est assurée, correspond à Ctésiclès, marquerait le moment où ces éphèbes, arrivés au terme de leur service, furent récompensés par une couronne, ou par toutes sortes d'honneurs, dont une couronne, comme l'attestent ces décrets. Cela prouverait, nous dit-on, que leur entrée en service date de l'été 335, 2 ans plus tôt. Ils finissent dans l'été 333, ils entrent 2 ans plus tôt en 335, 2 ans c'est la durée de l'Euphébie, oui. Et par conséquent, la réforme elle-même devrait remonter à l'année attique précédente, soit 336-335. Le raisonnement paraît, à première vue, imparable, et cela nous ramène effectivement au lendemain de l'assassinat de Philippe de Macédoine. En réalité, comme je crois l'avoir démontré en 2001, et je n'étais déjà pas tout seul, heureusement, la mention de l'archonte dans ses inscriptions ne donne nullement la date du couronnement ou la consécration des éphèbes à l'issue de leur service militaire, mais celle de leur enregistrement dans l'Euphébie, de leur promotion, si l'on veut. Ce sont les éphèbes de la promotion Ctésiclès. Donc, ils sont entrés en service en 334. On le voit par exemple dans un document comme celui-ci, d'Eleusis, les éphèbes de la tribu Hippotontide qui sont ceux de l'archonte Ctésiclès, et leur sophroniste, leur magistrat, une fois couronnés par le conseil et par le peuple, des gens d'Eleusis ont consacré, en remerciement, aux deux déesses d'Eleusis, Déméter et Corée. Donc, ce qui compte, c'est l'inscription, c'est l'année de l'inscription. Dès lors, plus rien, absolument rien, n'oblige à faire remonter la réforme à l'année 336-5. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle est antérieure à l'été 334. Par contre, Ctésiclès, 334-333. Or, dès le moment où l'on accepte de faire de cette réforme, avec les dépenses qu'elle entraînait, qui ont été assez considérables, une conséquence immédiate des événements de l'automne 335, l'enchaînement des faits, me semble-t-il, s'établit de la manière la plus naturelle du monde. après la destruction de Thèbes, septembre 335, ce qui correspond au début, à l'entrée en fonction de l'archonte qui a précédé Ctésiclès, Euainétos. C'est l'archonte, on l'a vu la semaine passée, de la loi sur les petites panathénées. Les Athéniens se voient donc octroyer le territoire d'Oropos, lequel, certes, avait déjà été enlevé à la tutelle thébaine en 338, juste après Chéronée, d'où d'ailleurs la confusion des anciens et des modernes à leur suite sur la date de la récupération. Mais en 338, ce qui s'était produit, c'était, par la décision de Philippe, la constitution d'une cité indépendante d'Oropos, ce que Philippe avait fait pour une autre cité béotienne, la petite ville de Platée, au même moment. Chose dont la preuve formelle était fournie depuis un siècle, mais avait été complètement méconnue, par l'existence de trois décrets, dont un, ici, ce que vous avez sous les yeux, qui émanaient des Européens eux-mêmes, ce qui était une preuve de leur indépendance, et qui dataient nécessairement de la très courte période entre 338, quand ils se débarrassent de la tutelle thébaine, et 335. Et en fait, il n'est pas très difficile de comprendre pourquoi, dès 335, Oropos, donc trois ans après avoir accédé à l'indépendance, ce qui est quand même extraordinaire, perdit à nouveau son statut d'autonomie. C'est que, comme le montrent ces documents eux-mêmes, les Européens avaient eu l'imprudence d'honorer des aristocrates macédoniens opposés à l'accession au trône d'Alexandre lui-même, dont un parent très proche d'Alexandre, qui s'appelait Amyntas, fils de Perdiccas, c'était un cousin, hein, Perdiccas est un roi de Macédoine, Amyntas, fils de Perdiccas. Autrement dit, les Européens s'étaient compromis dans ces luttes de pouvoir au lendemain de l'assassinat de Philippe. Et sans doute furent-ils, par-dessus le marché, accusés aussi, à tort ou à raison, on ne peut pas le dire, d'avoir fait cause commune avec les Thébains lors de la révolte de ces derniers contre Alexandre. Ils perdirent donc leur souveraineté au profit des propriétaires légitimes qu'étaient ou prétendaient être les Athéniens pour ce qui est de l'Europie. Et depuis toujours, sans doute, sans qu'il fût besoin d'induire la chose de rares indices conservés, on aurait pu savoir tout cela, en réalité. Si l'histoire de ces années cruciales, au lieu de nous être connue seulement à travers des auteurs assez tardifs, très sélectifs, tels Diodore, Plutarque, Arrien, nous avait été rapportée par des historiens contemporains dont les œuvres sont toutes et presque complètement perdues. Ainsi, revenir à nos Athéniens, c'est dans cette atmosphère, on peut dire, de liesse, de fierté retrouvée, que les Athéniens élaborèrent et votèrent au cours de l'année 335, on peut dire l'hiver 335-334, la loi sur les Phébies, qui visait à assurer désormais une meilleure défense de l'Attique, d'une Attique agrandie, grâce à un service militaire national, démocratique, obligatoire pour tous les futurs citoyens, avec mission, c'est dans le texte d'Aristote, dès la première année, de monter la garde dans les ports, puis ensuite de patrouiller péripolain, faire des promenades dans le territoire, et de stationner dans les forteresses de la frontière. On ne dira donc plus, comme le fait encore mon camarade Michel Sève, qui est l'auteur de l'édition si commode de la Constitution d'Athènes, parue dans le livre de poche, très, très recommandable, on dira donc plus que cette réforme fut instituée à la suite de la défaite de Chéronée. Et probablement, disait-il déjà, en 335-334, ça n'est pas une réforme qui est issue de la défaite, c'est une réforme qui est issue d'une victoire, de cette récupération inespérée d'un accroissement territorial qui exigeait une défense accrue aussi et qui, d'autre part, produisait ce nouveau territoire les revenus indispensables au coût assez considérable, car ces effets étaient payés, les magistrats aussi, il y avait une dépense assez considérable de l'FMI. De fait, l'opinion défendue ici, qui, à ma connaissance, n'a été contestée expressément par personne, gagne aujourd'hui du terrain parmi les historiens et se trouve adoptée par les épigraphistes anglo-saxons qui s'occupent en priorité de l'épigraphie attique, je pourrais en citer plusieurs, de l'épigraphiste grec aussi, je mentionne notamment Vassilis Petrakos, l'homme d'Oropos et de Ramnonte, qui a été un adepte de la première heure, sans parler de plusieurs savants français, au premier rang desquels je place, pour la valeur de son jugement, mon vieil ami Philippe Gautier, dès 1989. On peut donc, me semble-t-il, adopter cette reconstitution des faits avec une relative confiance. D'ailleurs, comme l'a suggéré en 2004, dans le sillage justement de la nouvelle datation, un épigraphiste américain, Socin, c'est alors aussi, durant ce même hiver 335-334, et dans la même atmosphère, que les Athéniens durent très vraisemblablement instituer une fête de la paix, ou plutôt, au témoignage de cet assez énigmatique document qui avait été trouvé en 1938, décidèrent de compléter par un concours, on voit mention de diverses épreuves dans ces deux premières lignes et ensuite, et de faire un ajout en quelque sorte à la célébration d'un culte qui avait été institué bien auparavant, probablement parce qu'on a un texte littéraire à en rapport, dès l'année 374, ils ajoutent quelque chose, vous voyez, sur la stèle qui concerne la paix. Mention assez remarquable, donc, de cette stèlée, d'une stèle qui était E perites eirenes. On fait une espèce d'amendement ou d'ajout à la stèle sur la paix. Et cela, il est certain que cette inscription date de ces années 330, car on a pu prouver qu'elle était l'œuvre du même graveur que la plupart des documents officiels, des grands documents dans notre loi sur les petites panathénées des années 330. Mais c'est dans l'Oropie même, et plus précisément à l'Amphiaraïon, principal sanctuaire de cette région, que vous avez vu l'emplacement, confins de l'Attique et de la Béotie, qu'à partir de 334, on assiste à une subite reprise de l'activité, et cela à travers une impressionnante série d'inscriptions révélant avec quel empressement Athènes tint à s'y réinstaller après un long intermède, maintenant que Thèbes, justement, l'autre grande cité, était, on peut dire, éliminée brutalement et ne pouvait plus contester la propriété. Mais notons-le qu'il y avait tout de même un autre État à pouvoir émettre une revendication là-dessus, à savoir la cité eubéenne d'Érétrie, dont Athènes peut-être eut tort de sous-estimer la capacité de résistance à ce nouvel état de choses. Mais on y reviendra. L'absence totale d'inscription attique à Oropos pour la période allant de 338 à 335 était vraiment faite pour surprendre, tant qu'on adoptait la chronologie traditionnelle. Pourquoi est-ce que les Athéniens n'avaient rien fait entre 338 et 335? Eh bien, il est clair qu'on ne pouvait pas en rendre compte, puisque la vraie explication est que, précisément, l'Oropie ne leur appartenait pas encore, était une cité à ce moment-là indépendante. Cela dit, il n'est pas indispensable de revenir ici sur tout ce magnifique dossier épigraphique qui contient plusieurs pièces d'anthologie, comme le décret pour, bien connu, souvent reproduit, pour l'épimélète des fontaines, Pythéas d'Alopéquée, qui avait été bien étudié encore en 1989 par Christian Habicht lui-même, qui avait fait connaître d'ailleurs, de façon intéressante, dans cet article, non pas le décret, le décret lui-même était connu depuis un siècle, mais il avait su rapprocher une inscription funéraire, un petit autel funéraire, qui, à l'évidence, se rapporte au même personnage, Pythéas, fils de Sosidémos, du dème d'Alopéque, riche de monuments qui témoignent de l'importance de cet homme d'État. Il y a surtout à côté tout un ensemble de textes qui se rapportent à la fête des Mégala Amphiaréa, en rapport avec le dieu local Amphiaraos, nouvelle fête qui vient s'ajouter à partir de 329 à la série des grandes célébrations pentétériques de la cité, c'est-à-dire quadriennale de la cité athénienne. Rappelons seulement que ces documents mettent en pleine lumière le rôle joué par un personnage en particulier dans toute cette affaire, un personnage qui travaille la main dans la main avec Lycurgue, avec Démade et d'autres. C'est l'historien Phanodémos, ici mentionné, Epeide Phanodémos, du dème de Thumaitelai, fils de Dilos, spécialiste des cultes de l'Attique, figure tout à fait éminente de cette époque où l'on remet à l'honneur les traditions religieuses les plus anciennes, personnage qui, à lui seul, a été trois fois honoré. Et ici, en particulier, il est honoré seul pour avoir fait de belles lois, ne nomotetheken, de belles lois concernant le sanctuaire d'Amphiaraos lui-même. Et c'est lui, d'ailleurs, on l'a aussi retrouvé le décret, qui fait voter en 332-331 une couronne pour le dieu européen Amphiaraos. Ce couronnement de divinité, une chose tout de même assez singulière, avait certainement une signification politique, puisque selon les termes même du décret, on entendait récompenser Amphiaraos, ce ancien héros guérisseur qui devient vraiment une divinité majeure à ce moment-là, on entend le récompenser du bon accueil fait au peuple athénien. Du bon accueil, oui, puisque les Athéniens s'emparent de ce territoire, il vaut mieux qu'ils aient le dieu avec eux. Mais il n'est pas sûr que les gens d'Oropos aient été exactement du même avis et aient fait preuve de la même hospitalité à l'égard des Athéniens. Si l'on avait conservé l'œuvre de ce Phanodémos, qui était ce qu'on appelle un attidographe, un spécialiste de l'histoire de l'Attique, et autrement qu'à travers quelques fragments, citations, etc., si l'on possédait de même l'histoire écrite par son fils, son propre fils, Dilos, même nom que son grand-père, Dilos, fils de Phanodémos, qui a été utilisé par l'écrivain hellénistique Diodore de Sicile, quelle lumière aurait été projetée, non sans un soupçon, bien sûr, d'athénocentrisme, sur les vicissitudes de l'Europie et sur le statut qui fut donné par Athènes à ce territoire après 335. Car il faut bien reconnaître que, en dépit de cette belle documentation dont vous avez un spécimen sous les yeux, il y a encore bien des zones d'ombre à cet égard. Deux choses paraissent néanmoins certaines, à peu près certaines. D'une part, Oropos ne fut pas intégré, à l'espace civique de l'Attique. Il n'y eut pas un nouveau dème, si vous voulez, une nouvelle communauté ou deux, qui aurait le même statut que les autres villages ou communautés attiques, ce qu'on appelle les dèmes. D'autre part, on n'y installa pas non plus, selon toute apparence, une colonie militaire dont les membres disposaient d'un lot de terre, kleros, à titre individuel, d'où le nom de kleroukia, les kleroukoi, donné à ce système. Comme cela s'était produit une génération plus tôt, on y reviendra, dans l'île de Samos, et comme il y aura encore bien des exemples durant toute l'époque hellénistique. Il n'y a pas, à notre connaissance, pas même, on pourrait dire, dans ce vaste territoire, il n'y a pas même de forteresse qui soit construite pour abriter une garnison permanente, ce qu'on appelle un frurion. Et probablement, peut-être, disons, que la présence toute proche de la forteresse de Ramnont, où est-ce qu'elle est ? Je ne la vois plus, par là. Qui avait un très grand rôle pour surveiller le canal de l'Ebé, était jugée suffisante pour exercer le contrôle militaire de la nouvelle, du nouveau territoire occupé. Mais on ne saurait donc exclure que le don de l'Europos, par la volonté d'Alexandre, ait été assorti en même temps d'un certain nombre de conditions, de restrictions, notamment sur le plan militaire. Mais quel fut alors, direz-vous, quel fut alors le statut de ces territoires durant les années de la mainmise athénienne ? D'abord, une partie du pays, et pas la moins bonne nécessairement, fut reconnue comme terre sacrée, hiera, appartenant de droit au dieu Amphiaraos, devin, médecin, et dont les biens, dès lors, furent gérés par, très probablement, par les administrateurs du trésor des dieux, c'est-à-dire du trésor d'Athéna et des autres dieux, comme on disait à cette époque. Cela permettait aux Athéniens de continuer à honorer, c'était fondamental, de continuer à honorer cette divinité, et même de créer, et sans bourse délier, de nouvelles occasions de célébrer son culte. D'autre part, chose non moins certaine, on sait, grâce à l'un des discours d'Hypéride, vous avez un extrait dans votre dossier, ces discours d'Hypéride qui ont été conservés, pour quelques-uns d'entre eux, par un papyrus, un très important papyrus de l'Égypte gréco-romaine, on sait donc par Hypéride que les montagnes de l'Oropie, les montagnes de l'Oropie, ta oreta en oropo, tout ça plus clair, formaient un second ensemble, et ces terres, relativement peu propres à la culture, sans doute, mais intéressantes néanmoins à d'autres titres, on verra, en raison de leurs précieuses ressources en bois, furent réparties entre les 10 tribus de l'État athénien. C'est bien Hypéride qui nous le dit de la manière la plus claire. Ces 10 tribus qui étaient groupées par deux, sunduo genomenai, elles sont devenues réunies en deux, l'orateur le dit expressément, comme si une division en 10 lots avait paru inutilement compliquée, peut-être, pour les problèmes de délimitation dans cette zone montagneuse, dans toute cette zone de colline. Or, c'est justement suite à cette répartition des terres qu'un problème devait surgir, dont longtemps on n'eut l'écho que chez Hypéride, précisément, qui avait été amené à faire ce discours pour défendre contre les accusations d'un certain Polyctos, qui est d'ailleurs connu comme politique, pour défendre un autre Athénien fort distingué, qui est Euxénipos, d'où le titre donc pour Euxénipe, lequel, vers 330, la date n'est pas fournie de manière exacte, mais c'est l'époque, la grande époque d'Hypéride, avait été envoyé tout exprès consulter le dieu Amphiaraos pour essayer de dénouer cette épineuse affaire. En effet, le dieu avait été lésé, disait en tout cas l'accusation, présenté par Polyectos, avait été lésé du fait que l'une de ces collines, Lophos, avait été attribuée à une des paires de tribus, c'est-à-dire en l'occurrence l'Hippotontis, on le voit, et l'Acamantis, donné très clairement par Hypéride, alors que cette colline était partie intégrante du domaine du dieu Amphiaraos, donc par là, un sacré intouchable. Conflit d'intérêts qui mettait aux prises la cité elle-même en tant que responsable du partage, en dernier ressort, avec une divinité d'autant plus respectable qu'elle était désormais annexée au panthéon athénien. Alors, quelle en fut l'issue? Sans doute le saurions-nous aujourd'hui, car du discours d'Hypéride, l'issue ne ressort pas clairement, c'est un discours de défense. On le saurait si on pouvait lire dans son intégralité très longue inscription trouvée dans les fouilles de l'Agora d'Athènes, publiée en 1987 sous le titre « An Attic Decree Concerning Oropos ». Bon. C'était déjà quelque chose. Document d'une lecture si malaisée par suite de l'usure de la pierre. Elle a été renversée, elle a été usée par l'eau qui passait dans une canalisation, que son objet même a été difficile à établir. Encore que le rapport d'emblée entrevu, il faut le dire, avec l'affaire des montagnes européennes, soit désormais assuré par une récente, et du tout récente, même puisqu'elle est parue en 2009, de l'épigraphiste grec Nikolaos Papazarkadas. En effet, on ne saurait douter, même si, vous voyez dans quel état elle est, hein, pour la lecture simplement, on ne saurait douter maintenant qu'il soit question là aussi d'un espace appartenant à deux tribus. Le soulignement, ça a été déplacé ici, les tribus Aegeis et Aiantis, bah, dans l'Oropie, même si c'est lu avec beaucoup de difficultés, à la suite d'un bornage. Et donc on a une seconde paire correspondante tout à fait à l'affaire qu'évoque Hypéride. Il y a surtout à cette ligne 10 la mention de l'arbitrage, une commission qui ici a procédé à un orismos, à un partage, un bornage exactement, un bornage pour délimiter le territoire donné à deux tribus. Et ce bornage, chose intéressante, visiblement concerne un secteur forestier, ce qui confirme donc le rapport. Un domaine où l'exploitation du bois joue manifestement un rôle majeur, puisque là apparaissent des personnages officiels dont on ne connaissait pas le nom jusqu'ici, qui s'appellent des Ulonai, littéralement des acheteurs de bois, ulais, le bois résineux, qui entrent dans une famille de mots grecs comme sitonai, les acquéreurs de grains, de blé, qui jouent le rôle d'intermédiaire. C'est une terre boisée, une gaie éphulos, là aussi un terme très, très rare, qui n'apparaît, mais je ne sais pas si j'ai le texte ici. Le terme de gaie éphulos est pratiquement un apax, mais il apparaît deux fois justement dans le dossier pour Oropos. Vous avez ici éphulon, et très certainement quelque chose comme épi gaie éphulon, une terre qui est boisée. Qui caractérise donc cette zone attribuée aux 10 tribus groupées 2 à 2. Et par ailleurs, il est clair que l'inscription difficile, celle-ci, date bien des années 330 pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je n'entre pas. C'est dire que l'interprétation proposée par ce collègue grec me paraît dans l'ensemble mériter l'adhésion du lecteur. J'estime qu'il a parfaitement raison, en particulier, de repousser une opinion qui avait été exprimée naguère, selon laquelle la mention de propriétaire particulier dans ce texte attesterait une occupation plus ou moins illégale des lieux au début de la mainmise d'Athènes sur l'Oropie, et qu'il aurait fallu, en conséquence, par un bornage, en quelque sorte, reprendre en main un terrain, un domaine public qui était menacé par des empiétements privés. En réalité, comme le nouvel éditeur, je pense que c'est bien le bornage qui est l'acte premier, et que si le document garde la trace d'individus, de locations, avec des montants même, des montants qu'on a pu lire en certaines places, c'est que précisément ces montants tombaient dans la caisse publique, dans la caisse de ces deux, tribus. Sur deux points, je m'écarterai légèrement de l'interprétation du nouvel éditeur. Point l'un plutôt secondaire, l'autre peut-être plus important. En effet, il ne me semble pas établi que le document émane de deux tribus, seulement, donc ces deux tribus conservées, ici la Géide et la Yantide. Car on constate en effet que au début, ici, la formule de résolution « dedoctai tais phulais », il est décidé, qu'on décide, qu'il plaise aux tribus de sacrifier. Il n'est pas mentionné deux tribus, et d'autre part, dans les cas où est mentionné par ailleurs et assez souvent le mot « tribu » au pluriel, on n'a jamais des formes de duel. Vous savez, cette possibilité que le grec avait de désigner deux entre le singulier et le pluriel. Or, on devrait avoir, dans bien des cas, « toin phulain », une forme de duel pour le datif ou le génitif, puisque le duel était encore parfaitement utilisé jusqu'à la fin du IVe siècle. Donc, je crois que c'est un décret qui émane, en fait, de l'ensemble des dix tribus, parce que les dix tribus étaient toutes, peu ou prou, intéressées au partage, même lorsque ça concernait seulement une paire d'entre elles. Une question de plus grande portée historique, peut-être, est celle de savoir si le bornage en question, introduit, vous l'avez vu, par cette formule « oide horisanto », voilà ceux qui ont procédé à la délimitation, ce bornage doit ou non être identifié à celui dont parle Hypéride, selon qui 50 délimitateurs, oristai, un terme technique mais qui est maintenant bien attesté par les inscriptions, qui avaient pris soin de manière très concrète de poser des bornes dans le territoire d'Oropos. Est-ce que ces deux bornages doivent être distingués ou constituent-ils la même opération ? Il me paraît clair qu'ils doivent être absolument distingués, ne serait-ce que par le nombre le nombre même des oristai dans les deux cas. Mais à mon avis, c'est à tort que le nouvel éditeur place le travail des 50 oristai dont parle Hypéride au lendemain même de la récupération de l'Europie. C'est l'opinion d'ailleurs commune. Car si tel avait été le cas, on ne comprendrait pas que ce bornage qui avait été matérialisé sur le terrain ait pu être ignoré 5 ou 6 ans plus tard. D'où justement toute la contestation sur laquelle roule le discours d'Hypéride. En réalité, comme s'en était aperçu l'éditeur dans la collection des universités de France des discours d'Hypéride, le vieux Gaston Collin, je dis vieux parce qu'il était déjà fort âgé au moment, vers 1949, lorsqu'il a fait cette édition, il notait qu'il avait lieu de supposer que c'était un bornage sensiblement plus ancien, protéron, comme dit Hypéride, et qui remontait à une période d'occupation antérieure, et non pas à celle qui commence seulement en 335. Et la période 371-366 est de loin la plus vraisemblable, parce que c'est celle qui précède immédiatement, car on sait aujourd'hui que Athènes a pu récupérer une première fois cette Oropie dans ces années-là et qu'elle a déployé à ce moment-là une grande activité. Ce qui est important, c'est que l'on comprend désormais une chose qui était bien mystérieuse. C'est pourquoi les tribus athéniennes étaient réunies, étaient appariées en 335, selon une façon qui ne correspond pas du tout au système qui était en vigueur dans ces années-là et qui le fut ensuite de manière générale. Car à partir d'un certain moment, qu'on peut dater des alentours de 365, la constitution des pairs fut définitivement établie, notamment pour la fête des Targhelia. C'était toujours les mêmes qui étaient groupés ensemble selon le haut du tableau. On voit que une tribu comme l'Hippotontide n'est pas appariée à l'Acamantide comme chez Hyperide, mais à une autre qui est la Cécropide. Or, on sait aujourd'hui que le passage de l'ancien système où les tribus étaient tirées au sort chaque année au système nouveau où l'appariement fut définitivement établi se situe entre 379 et 365. Un nouveau document relatif à la fête des Targhelia où les tribus justement étaient associées pour constituer le corps montre qu'on est encore dans l'ancien système avec tirage au sort, des groupements donc fortuits et qui changent chaque année. Autrement dit, le système que l'on voit à l'œuvre chez Hyperide, avec le groupement dont manifeste à la fois son discours et la grande inscription sur le bornage, montre que ce bornage a été fait avant 365. Et il correspond donc à cette période antérieure d'occupation de l'Europe par les Athéniens. Et ce découpage s'est trouvé figé au moment où les Athéniens ont été chassés de l'Europe, après un véritable coup militaire organisé par les Thébains en 366. Les Athéniens ont toujours espéré chaque année pouvoir récupérer leur territoire grâce à un arbitrage international qui ne vint jamais, de sorte qu'en 335, quand survint de façon quasi miraculeuse la restitution obtenue par Démade, on ne perdit pas un jour pour procéder à la réinstallation et plutôt que de concevoir un nouveau plan, disons, d'occupation, on a repris tel quel l'ancien, d'autant plus qu'il était borné déjà, il avait été fait, il était dans les archives, il y avait une espèce de cadastre, et d'où justement alors les conflits qui surviennent à partir de 335 et dont on a l'écho dans le pour Euxénippe, puisque bien sûr ces bornes qui avaient été établies avant 366, elles avaient eu le temps de disparaître. Pendant l'occupation thébaine, elles avaient été plus ou moins renversées, on ne savait plus très bien où passait désormais la frontière. Donc, il y a l'explication, je pense, de ces appellations qui pouvaient surprendre. Et tout cela, donc, confirme l'importance que Athènes attachée à ce territoire. Dans le temps qui me reste dans cette leçon, je voudrais traiter encore rapidement d'un problème le plus souvent escamoté. Qu'advint-il de la population d'Oropos au moment de la mainmise athénienne et plus généralement, peut-on dire, de celle des territoires, ainsi, puisque ce n'est pas le seul, ainsi annexés par les Athéniens. La question serait purement rhétorique, on peut dire, si le sort des indigènes était partout et toujours inconnu, ces gens étant condamnés en quelque sorte au silence. étant comme évacué de l'histoire. Mais heureusement, il n'en va pas toujours ainsi. Et une rapide comparaison avec le cas mieux documenté de l'île de Samos, donc ici en face de Milet, nous permet peut-être d'entrevoir quel a été le destin des Européens. Et peut-être d'autant plus que ce destin, d'une certaine façon, était lié à celui des Samiens, même si l'on ne paraît guère s'en être avisé jusqu'ici. La grande île de Samos fait partie, la chose est tout à fait assurée, de ces possessions insulaires qu'Athènes put conserver en 338, après la défaite de Chéronée. Car, en dépit d'une affirmation très générale, très imprécise, de Pausanias, on l'a vu ce texte la semaine dernière, le roi Philippe, au lendemain de Chéronée, n'avait pas songé à priver les Athéniens de toutes les pièces de leur empire maritime. Non seulement il avait laissé à Athènes les îles sur lesquelles la tutelle athénienne était reconnue, on peut le dire, par tous et depuis longtemps, à savoir les îles de Lemnos, pièce maîtresse ici, Lemnos, puis Imbros, et puis Skyros, ces trois îles toujours mentionnées ensemble, qui constituent pour Athènes comme les étapes de l'acheminement du blé, pontique à travers l'Hellespont, le prapontis de l'Hellespont, vous voyez, cette route extrêmement claire qui permet ensuite de contourner le B, puis d'arriver au Pirée. Des îles qui, peut-être des têtes de pont, des étapes, mais qui fournissaient d'ailleurs elles-mêmes d'assez grandes quantités de blé, car voici 10 ans, l'Américain Ronald Stroud a publié une superbe loi épigraphique de l'année 374-3, donc bien avant notre époque déjà, où l'on voit que on levait une taxe importante sur la production céréalière dans ces trois îles, qui étaient vraiment un élément très important du système, on peut dire, politico-économique d'Athènes. Et même si cette loi date déjà de 374, on peut penser que cette taxe et tout ce système restaient en vigueur en 338, qu'elle leur resta. Je n'entre pas sur la question de la clérouquie dans ces îles, car on traitera bientôt une invitée, Mme Koulas-Sogastaldi, qui est spécialiste de ces questions. Athènes put conserver aussi sa mainmise sur l'île de, sur la petite île de Délos, là au cœur des Cyclades, on va la montrer, qu'elle possédait depuis longtemps, où elle exerçait son pouvoir de manière indirecte, d'ailleurs, à travers ce qu'on appelle une amphictyonie, une association de caractère religieux, mais où en réalité les Athéniens monopolisaient le pouvoir. C'est une époque de l'île de Délos à laquelle vient d'être consacré un beau livre, une monographie très savante de Mme Tchankovski en 2008, où on trouvera tous les documents utiles. On aurait pu penser que le roi Philippe, en 338, profita de sa victoire pour libérer en quelque sorte Délos, car les gens de Délos, les Déliens, avaient manifesté souvent auparavant, et très peu de temps auparavant, leur ardent désir d'être affranchis de la tutelle athénienne. Il y avait même eu une espèce de procès en 343 où le même Hypéride, qui est souvent, Hypéride est une figure à peu près aussi importante que Démosthène, a été élu pour défendre la cause d'Athènes, peut-être devant l'amphictyonie de Delphes, et les Athéniens visiblement l'ont emporté. Or, en 338, Philippe, c'est une chose remarquable qui témoigne à la fois de son souci de ne pas se brouiller, pas se brouiller définitivement avec Athènes, et de sa relative incapacité aussi à se substituer à elle dans le domaine égéen, Philippe ne fit rien pour les Déliens. Mais le cas le plus singulier à y réfléchir, c'est son attitude face à la question samienne. Voilà pourtant une île considérable, un des grands états de la Grèce insulaire, annexé en 365 par Athènes au mépris le plus évident du droit des gens, sous le seul prétexte que cette île, occupée alors par une garnison perse, n'avait pas à être traitée avec les égards dus aux cités autonomes qui, une douzaine d'années plus tôt, étaient entrées de leur plein gré dans ce qu'on appelle la Ligue maritime athénienne, créée en 377. Or, aussitôt après cette mainmise, en 365, Athènes avait procédé à l'expulsion quasi générale de la population de l'île, les malheureux Samiens étant obligés de passer sur le continent voisin, tout proche, ou de s'exiler en terre beaucoup plus lointaine. Alors, comment expliquer de la part de Philippe, puis d'Alexandre, au moins dans le début de son règne, cette attitude très laxiste à l'égard d'Athènes? Il se peut certes que des considérations stratégiques en rapport avec la future campagne asiatique aient joué leur rôle, Samos constituant indéniablement une tête de pont face au continent dominé alors encore par le grand roi des Perses. Mais la vraie raison de cette retenue est ailleurs. C'est que Philippe et son successeur se trouvaient tout simplement devant le fait accompli, face à une situation délibérément bloquée, puisque une importante population athénienne, plusieurs milliers de citoyens soldats, avait pris la place de la population samienne. Une inscription assez étonnante, trouvée dès 1959 à Samos, mais publiée seulement en 1997 par l'épigraphiste allemand Klaus Hallhoff, avec la collaboration aussi de Habicht, qui est très bon connaisseur des choses samiennes, nous a restitué l'effectif complet sur quatre faces. Vous ne voyez pas grand-chose là, mais je vous montre une des faces en transcription. Il y a 11 colonnes de noms, vers 345, où nous avons toutes les autorités politiques de l'île de Samos, les magistrats, ici, les principaux magistrats, et surtout en 10 colonnes, donc correspondant à autant de tribus athéniennes, 250 Athéniens. Qui sont ces 250 Athéniens? Ce sont les membres du conseil de la boule athénienne de Samos, qui est donc dont l'effectif est moitié moins important qu'à Athènes même. Ce document prouve que Samos abritait dans ces années-là, dès avant Chéronée, mais encore après, comme une seconde Athènes, dont la population civique s'élevait à plusieurs milliers de têtes, puisqu'il y avait 250 conseillers. À Athènes, on a 500 conseillers, mais une population d'environ 30 000 citoyens, peut-être 25 000 à ce moment-là. Et pour déloger une telle masse d'hommes qui étaient en plus en armes, il fallait plus qu'un décret ou un traité. C'était une part substantielle des forces vives de la cité athénienne qui se trouvait ainsi installée, peut-être aussi par roulement, dans l'île de Samos. Il me semble qu'un transfert aussi nombreux, massif, ne peut pas s'expliquer seulement par le manque permanent de bonnes terres en Attique. Il doit y avoir peut-être une cause plus précise, plus immédiate, un événement grave. Or, chose curieuse, les historiens ne font jamais le lien, en dépit de la coïncidence frappante sur le plan chronologique, entre l'affaire d'Oropos en 366, qui voit Athènes perdre du jour au lendemain le contrôle de ce territoire au profit des Thébains. Il y a un lien, me semble-t-il, avec la mainmise sur Samos, qui est comme une réponse, une manière de compenser la perte oropienne en portant simultanément, en fait d'une pierre deux coups en quelque sorte, en portant un coup sensible aux ambitions thébaines, qui sont manifestes à ce moment-là, vers 365, de la Thèbe de Thépaminondas vers la mer Égée. Donc, il y a, me semble-t-il, un lien entre Oropos et Samos qui n'a été méconnu. En fait, il se pourrait bien qu'entre les deux territoires annexés, Oropos, Samos, les analogies aient été plus nombreuses qu'on ne le soupçonnerait à la simple lecture des sources littéraires. Certes, il n'y avait pas, apparemment pas, de clérouc à Oropos. Cela ressort assez clairement, quoique négativement, d'une inscription le plus souvent négligée, parce qu'évidemment, elle est un peu mutilée, et à première vue, ne dit pas grand-chose, qui montre une série de 12 couronnes. 12 couronnes. Or, dès 1911, dès 1925 surtout, le grand épigraphiste autrichien Adolf Wilhelm avait pu montrer que cette pierre constituait en réalité la partie supérieure du décret voté au grand Lycurgue en 307, et que dans ce décret, on avait rappelé toutes les couronnes qu'il avait reçues, et parmi elles, de son vivant, avant 324, et parmi elles, on note qu'il y a effectivement, ce qui donne aussi une date, et il y a le peuple qui vit à Samos, o demos o en Samo, et o demos o en Lemno, c'est-à-dire deux installations de clérouc, de petites Athènes, qui font un hommage à Lycurgue. Or, on aurait pu attendre, si Oropos avait été elle aussi une clérouquie, on aurait dû avoir une mention de « Odemos o en Oropo ». Jamais ça ne se trouve, jusqu'ici, il y a silence total. De l'autre côté, il importe de relever l'existence d'au moins un texte littéraire, surnageant probablement au milieu d'un naufrage, ou du naufrage de tant d'auteurs d'hellénistique, où les noms de Samos et d'Oropos apparaissent côte à côte et eux seuls dans le même contexte. C'est un passage de l'historien Diodore de Sicile, livre 18, chapitre 56. Texte assez fameux, car il reproduit un diagramma, qu'en l'an 318, donc quelques années plus tard, 5 ans après la mort d'Alexandre, le nouveau régent du royaume de Macédoine, qui s'appelle Polypercone, adresse à toutes les cités de Grèce, de Grèce propre en tout cas, au nom des successeurs d'Alexandre, au nom du successeur, son demi-frère, le roi Philippe Aridée. Et au terme de cette ordonnance très, très générale, il dit ici ce qui nous intéresse, 7, quoi qu'il en soit, comme sous Philippe... je ne veux pas me tromper... Oui, quoi qu'il en soit, d'autre part, pour les Athéniens, comme sous Philippe et sous Alexandre, si ce n'est que les Européens auront Oropos, comme c'est présentement le cas. Nous donnons, d'autre part, l'île de Samos aux Athéniens, puisque Philippe, notre père, leur avait donné. Donner, c'est beaucoup dire. Il leur avait laissé, il ne pouvait pas rien faire d'autre. Mais on magnifie, évidemment, il a donné. Alors, l'association est assez remarquable. Ce Polypercone, en tant que régent, veut régler d'un seul coup le statut de ces deux anciennes possessions athéniennes, mais chose assez remarquable, dans un sens opposé et de manière à première vue bien paradoxale. En effet, Oropos et Samos furent perdus par Athènes en 321 ou plus tard, à la suite de la défaite épouvantable, la défaite qu'ils subirent en 322, après s'être soulevé avec d'autres contre l'ordre macédonien. Cette perte, dans le cas de Samos, s'était soldée par le retour forcé à Athènes, dans des conditions certainement très difficiles, de milliers de clérouques. Et parmi eux, parmi ces clérouques, un jeune Athénien, né à Samos vers 342, promu à une belle renommée, le futur philosophe Épicouros, Épicure. Qui était né à Samos, justement, dans la clérouquie, et qui devait refaire plus tard, dans les années probablement 310, un voyage à Samos. Il le dit dans une lettre encore inédite, mais dont j'ai eu connaissance ici en 2009, où, là au milieu, mais je ne peux pas faire l'interprétation maintenant, il dit qu'il va faire un voyage d'Ianesone à travers les îles jusqu'à Samos pour y rencontrer des amis. Une discussion philosophique qu'il veut refaire dans sa patrie après que l'île a été perdue par Athènes. Mais alors, donc, il n'était plus du tout question de rétablir la domination athénienne à cette date, car les Samiens, l'ancienne population samienne, bénéficiant de la sympathie, une sympathie très large à travers tout le monde grec, avaient pu se rétablir dès 321. Alors, on peut donc s'étonner de voir le régent, en 318, faire miroiter aux Athéniens le rétablissement de leur ancienne colonie à Samos. En réalité, cette promesse était de celle que l'on se plaisait à faire dans le climat d'intense rivalité régnant alors entre les successeurs d'Alexandre. Accorder un privilège, accorder un territoire que, en réalité, seul le rival était en mesure de donner le cas échéant. Dans le cas d'Oropos, au contraire, la situation se trouvait inversée, puisque là, Polyperchon aurait eu le moyen de rétablir les Athéniens dans leur ancienne possession, étant donné qu'il était le représentant du roi Philippe, Philippe Aridée, qui régnait justement sur cette partie de la Grèce. Mais comme il ne voulait surtout pas allumer une guerre aux confins de la Béotie et de l'Eubée, dans le seul but de donner satisfaction aux Athéniens, il fit proclamer tout à l'inverse que la libération d'Oropos, acquise au lendemain de la capitulation d'Athènes en 322, ne saurait être remise en question que les Européens aient Oropos. Dans les deux cas, donc, on agite à des fins de propagande un vieux problème, mais on est bien décidé à ne rien changer, ce qui est sans surprise pour l'observateur de la vie politique en toute époque et en matière de relations internationales en particulier. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.